Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque lundi, hein, 19h-20h30. Alors on va avoir beaucoup de choses encore à vous raconter ce soir. On parlera de diététique et de coach mental au niveau du sport avec notre invité qui est venu spécialement du Sud et je le remercie. On va aussi naturellement, on aura un point foot avec Stéphane Desenclos, on aura le journal Omnisport d'Alexandre et puis ce soir on va parler de roller skateboard, hein, pas roller skating, avec notre invité, donc Alain Esnault, directeur, donc Alain, du CDRS 75. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Ouais, donc combien d'années dans cette activité ?
J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais là, depuis 21 ans, je suis d'abord, j'ai été le président, et puis maintenant, je suis le directeur du comité roller et skateboard de Paris.
Ouais, c'est ça. On dit bien roller skateboard et pas roller skating, hein, sinon
c'est
on va
ça.
Te faire taper très loin.
Voilà.
Très bien. Donc, on aura l'occasion de mieux présenter vos différentes activités parce qu'il y a de multiples activités au sein donc, de ce comité départemental. Je veux saluer Vanessa.
Bonjour Philippe. Bonsoir,
Vanessa.
Bonjour à tous.
Bonne forme.
Très bien.
Ouais. Ça s'est bien passé pour aimer.
Oui.
T'as reçu beaucoup de muguet.
Oh, oui.
Bon, bah, c'est bien. Allez, on va donc commencer avec notre invité. Quand même, que je salue Clément Alonso.
Bonjour
Clément, donc merci d'être venu du Sud. Je l'ai dit, on va parler de diététique pour le sport et puis de coaching mental. Pourquoi cette orientation ?
Dans le sport et dans la diététique et en préparation mentale.
Oui.
Parce que j'ai toujours été un grand sportif depuis tout petit. Suite à une grande perte de poids personnel, je me suis orienté en tant que diététicien nutritionniste pour aider dans un premier temps les enfants qui ont souffert de surpoids comme moi je l'ai vécu avec toutes les souffrances qui peuvent être liées aussi à l'enfance avec les moqueries etc. Et j'ai compris très tôt qu'en fait il y avait un lien entre ce qu'on vivait au quotidien, le mental, ce qu'on a dans la tête et notre rapport à l'alimentation. Et après je l'ai retranscrit dans le sportif et plus particulièrement aussi dans le monde de l'entreprise derrière. Je pense qu'on en reparlera.
Très bien. Voilà. Allez, est-ce que dans le roller skateboard, le poids et l'hygiène de vie, c'est important dans les différentes disciplines ?
Mais comme tous les sports, c'est important. Mais bon, la nouvelle, je parlerai des skateurs. Les skateurs, c'est McDo. C'est ça. Mais après, on a des disciplines où vraiment il y a une vraie surveillance parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on a 35 disciplines.
Oui, alors justement,
35 disciplines, c'est...
Il y a peu de sports comme ça. Hein.
Voilà. Et puis surtout, là, on va faire les Jeux Olympiques d'été et les Jeux Olympiques d'hiver, vu qu'on a maintenant le long piste dans notre fédération. Donc, on se prépare déjà pour les Jeux Olympiques d'hiver.
Milan.
Milan. Et puis, on a le skateboard. Alors, on n'a pas eu de bons résultats, mais c'est aussi qu'on n'a pas d'équipement de niveau international en France. Ça veut dire que nos sportifs, ils sont obligés d'aller aux États-Unis ou même au Japon, parce que les Japon ont gardé l'équipement qu'ils avaient eu en 2020. Mais nous, on n'a pas de bons équipements, donc c'est un manque important. Mais je pense que vous qui recevez énormément de sportifs, ils vous disent le même discours par rapport à tous les équipements. On n'a pas d'équipement de niveau international en France, ou si on en a, on n'en a pas suffisamment.
Et encore, c'est en progrès quand même. On commence à avoir quelques infrastructures, mais enfin, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Alors, votre comité, vous l'avez dit, plusieurs sports, combien de licenciés au total ?
Alors, sur la France, on est à 65 000 licenciés. On est une petite fédération. Mmh. Et sur Paris, on est à 1500 licenciés. Alors, c'est pas énorme.
Ah non, non, non.
C'est pas énorme quand on sait que la plus grosse des randonnées, le dimanche après-midi, ça a été 26 000 personnes. 26 000 personnes. Là, on avait beaucoup de problèmes avec les voitures. Et tout le monde, quand les gens voulaient passer, ils disaient, ben non, il y a 26 000 personnes qui attendent. Donc, c'était... l'estimation, avec tous nos sports sur Paris, c'est 200 000 pratiquants. Mmh. On a beaucoup de loisirs.
Bah oui.
Beaucoup de loisirs. Mais les gens, ils prennent leur licence que si... Et ils font de la compétition. S'ils font que du loisir, comme la randonnée, comme d'autres sports, ben, du coup, on n'a pas beaucoup de licenciés sur Paris, mais on progresse quand même.
Ouais, hein. Ben c'est un peu le problème de certains autres sports. Hein. Un petit peu le vélo, même la course à pied ou bien le ski, c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup d'activités loisirs et c'est un petit peu plus dur pour la compétition. Vous avez combien de clubs sur Paris, alors ?
23.
23.
Affiliés. Hein.
Oui, oui, oui.
23
oui.
Affiliés, mais on travaille avec beaucoup d'autres clubs. Par exemple, le vendredi soir, vous avez une randonnée que vous devez connaître qui s'appelle Paris Roller. Ouais. Ils ne sont pas affiliés. Mais on travaille avec eux, il n'y a aucun problème. Mmh. On les traite pareil que Roller et Coquillage, qui est la randonnée du dimanche.
Alors, parmi ces clubs, c'est un club multi-carte, c'est-à-dire qu'on peut tout faire.
Alors, chaque club est spécialisé. Ouais. Là, on est à côté du gymnase Cerdan.
Oui, on les a reçus il n'y
a pas
longtemps.
C'est le roller hockey.
Oui, on les a reçus il n'y a pas longtemps.
Si on va dans le 18e, on va être au rink hockey.
Oui.
Si... Alors, je sais que vous n'avez pas parlé tellement.
La petite différence, c'est quoi ?
Ah oui.
Pour l'auditeur ?
Alors, le roller hockey, c'est comme le hockey sur glace, avec une crosse et un puck. Et puis, le rink hockey, c'est comme le hockey sur gazon, avec une canne et une balle. Mmh. Donc, voilà. Mais là, le sport qui est important chez nous, parce qu'il y a beaucoup de filles, c'est le roller derby.
Ah.
Et le roller derby, on a 6 clubs sur les 23, on a 6 clubs de roller derby.
Ah, bien.
Dont le club qui a été le plus important, qui est le roller Paris derby, qui fonctionne énormément, qui fonctionne bien et tout ça, qui envoie des pratiquants un peu dans toute la France, mais aussi à l'étranger. Donc, c'est une discipline que vous ne connaissez pas et je vous donnerai la liste pour les invités.
Ouais,
parce qu'en plus, elles sont très sympas.
Ouais,
et puis, comme j'ai le micro, on va continuer avec les filles.
Oui.
On a le seul club de skate féminin à Paris, qui s'appelle Relax, qui sont près de 200 licenciés et qui marchent très bien. Et elles ont commencé au départ pas beaucoup entre copines. Et puis là, maintenant, elles font beaucoup de choses sur Paris et tout ça. Donc, je vous parle déjà de trois disciplines, mais après...
Oui. Alors, vous avez quoi d'autre comme discipline ?
Vous avez combien d'heures
vous avez
là, pour nous ?
Ne vous inquiétez pas, on gère le timing. Ouais. Non, mais après, les autres principes... Alors, il y a le roller course, roller artistique, notamment. Donc, ensuite, il y a le roller freestyle. C'est ça,
hein. Oui.
Et puis,
Alors,
la trottinette aussi, non ?
Oui, oui, chez nous. On a le... Dans la course, on va avoir un nouvel équipement dans le 16e arrondissement, au terrain de sport de la Muette, qui sera couvert pour faire de la course de niveau international. Donc, bon. L'artistique... On a aussi bien en quad qu'en ligne, deux approches complètement différentes. Après, moi aussi, je regarde la liste parce que des fois, je ne veux pas en oublier. Et on a le freestyle. Le freestyle, on a quand même sur Paris des champions du monde.
Ouais.
Igor Cheremetiev, qui a pendant longtemps...
Il faut nous les emmener.
Pendant longtemps, le champion du monde... Et là, il a été dépassé par les Chinois. qui ont mis le paquet. Et ils me disaient, quand moi j'arrivais avant, j'étais tout seul. Et maintenant, les Chinois, ils nous mettent 5, 10 personnes en face qui ont un niveau de fou. Donc là, chaque année, on a la compétition internationale au gymnase de la Plaine dans le 15e arrondissement. Donc, c'est une belle compétition. Là, les gens se battent pour venir. Et avant, on faisait ces compétitions sur le Trocadéro. Sur la partie plate, on avait la compétition de slalom roller. Et sur la pente qui fait 140 mètres, on a le slalom skate, qui est encore une discipline. Et on a un grand patron qui est Jani, qui, pendant des années, a géré cette discipline impeccable. Donc, d'un côté, on avait Jani, et de l'autre côté, on avait Igor, mais aussi Sébastien Lafargue, qui est le patron dans cette discipline, et il est connu de manière mondiale. Les deux, on a des grosses pointures à Paris, et il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça.
Alors, une licence, ça coûte combien ? Est-ce que c'est pareil pour toutes les différentes activités ?
Alors, les licences, elle doit être à 48, 49 euros, la licence. Et après, il y a les cotisations dans les clubs qui font grossir la chose. Mais la licence, elle n'est pas si chère que ça par rapport à beaucoup de disciplines. Quand je vous parle tout à l'heure de 23 clubs, c'est souvent des clubs qui sont spécialisés.
Oui, d'accord.
Ça veut dire que si vous prenez Relax, elle fait du skate. Alors, on a quand même deux clubs qui sortent un peu d'ordinaire, qui font du roller et du skate, qui sont des écoles. Il y a RSI dans le 13e arrondissement, avec Adeline Lemaine. Et puis, on a Reflet 15, qui fait du roller et du skate, dans le 15e arrondissement aussi, et des initiations et tout. Donc, on a vraiment... on essaye à chaque fois de répondre au plus proche de toutes les pratiques. Alors là, avec les Jeux Olympiques, on a perdu un peu la possibilité d'utiliser le Trocadéro. Mais pendant 15 ans, on faisait une compétition internationale sur le Trocadéro, aussi bien en roller slalom qu'en skate. Et on avait des gens qui venaient du monde entier, alors facilement, parce qu'ils rêvaient tous de se faire prendre en photo devant la Tour Eiffel. Ah,
oui.
Donc ça, c'est ça. Et puis, on s'est essayé, dans le 20e, à l'arrivée de la Jones Sport, à faire une compétition dans la route la plus pentue de Paris, Montgalet.
Oui.
Montgalet. Et donc, on nous autorisait de fermer la route pendant toute la journée. On arrivait avec les équipes à 5 heures du matin, on installait des énormes modules. Et puis, là, c'était la folie. Et les chiffres que la police nous avait donnés, c'était 50 000 personnes en spectateurs.
Bon ? Ouf.
Dans le 20e.
Comment ? Dans le 20e, sur le. Parce qu'il y avait. On a arrêté parce que la nouvelle génération avait peur. Mais c'est tous les vieux de la vieille. Quand je dis vieux, c'était des trentenaires.
Oui.
Trentenaires. Eux, ils fonçaient, que ce soit en roller, que ce soit en skate, que ce soit en big bob. Ils fonçaient à toute allure. Là, on a fait ça pendant 2 ans et puis on a arrêté, faute de combattants.
D'accord. Et Montmartre, il n'y a rien eu ?
Montmartre, non.
Ah, c'est étonnant quand même.
Oui, mais nous, c'était par rapport au sol quand même. Il faut que ça soit des sols roulants.
Alors, donc, justement, on en parlait un petit peu hors antenne. Il y a quand même des problèmes d'infrastructure. On en parlait pour le sport en général et notamment pour vos différentes disciplines.
Ben, pendant les Jeux, il faut savoir qu'on avait le skate aux Jeux Olympiques. On n'avait aucun skatepark ouvert pendant les Jeux. C'était ou démoli, ou en entretien, ou là, le GP18, l'espace de glisse du 18e arrondissement qui est connu dans le monde entier, était démonté parce qu'il a servi de base au Cojo. Dans le 14e arrondissement, Jules Noël, était fermé parce que le toit s'était envolé. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le GP18, il était fermé parce que...
Oui, mais ils vont rouvrir, il y a des améliorations de prévues, ils vont rouvrir là, non ?
Alors, dans les cartons.
Oui, dans les cartons.
Dans les cartons. On est en train... On a Koufra qui va ouvrir bientôt, les barrières sont terminées. On a Bercy qui va rouvrir parce que on va avoir un nouveau toit qui couvre vraiment tous les modules et puis des nouveaux modules. Donc ça, c'est prévu début des travaux 2026. Je vous ai parlé de la piste de vitesse. Oui. Ça sera 2026-2027. Il y a des travaux qui sont prévus à l'EGP 18 dans le 18e arrondissement, donc là aussi. On attend beaucoup de travaux et je pense que la mairie s'est engagée à faire les choses. Donc je pense que ça va aller. Je touche du bois, ça va aller et tout ça. Alors après, on a comme tout le monde des problèmes sur nos disciplines qui se passent dans les gymnases. Où, effectivement, on n'a pas suffisamment de gymnase.
Oui, puis il faut partager avec les autres sports, quoi.
Et il faut partager avec les autres sports. Et puis, surtout, à chaque fois, on nous dit, avec vos rollers, vous abîmez les sols. Alors, on ne nous a jamais prouvé ça. Comme par hasard, dans le gymnase où on est, eh ben, il n'y a pas de problème d'avoir abîmé les sols. Mais les autres, ils disent non, ils abîment. Et puis, c'est clair, on n'a pas suffisamment de gymnase par rapport à toutes les sports demandés.
Ouais.
Mais pas que nous, hein, sur Paris.
Bah, c'est ce que tout le monde dit à ce micro à peu près chaque semaine. Hein.
Voilà.
Ouais. Ouais. Hein, donc, alors justement, il y a quand même des équipements spécifiques, particuliers, en fonction de chaque discipline. Je suppose que les patins ne sont pas les mêmes.
Ah oui, bah déjà,
hein,
oui.
D'une discipline à l'autre.
Ouais. Les patins de vitesse, ils sont allongés avec des roues différentes. Si on prend le roller hockey, ils ont des patins qui ressemblent, la chaussure ressemble, c'est souvent des boers. Excusez-moi si je parle de marque.
Mais qui sont aussi des patins de hockey sur glace.
Voilà. Si on prend le freestyle, si vous regardez, c'est des petits trous. C'est des toutes petits trous. Et puis, vous avez un V au milieu de la semelle. C'est pour permettre de glisser sur les modules. Si vous prenez le freestyle, il y a vraiment... tout un tas de choix. Et puis, il y a des rollers qui existaient presque depuis l'origine, qui sont les quads, qui étaient métalliques avant, qui maintenant sont vraiment de bonne facture. Et cette discipline, c'était le rink hockey qui était en quad. Et puis, on pensait que ça allait diminuer tout ça. Et puis, en fin de compte, ben non. Ça a repris avec le derby. Le derby se fait en quad. Mais aussi, on a beaucoup de filles. Et il y a une association qui s'appelle Patin Collectif qui fait du freestyle en quad.
Et finalement, la multiplicité des disciplines, elle est plutôt favorable à l'expansion je dirais, de la catégorie roller skateboard, c'est une question que je vous pose. Ouais.
Alors, la chose intéressante, c'est que vous avez aussi du roller soccer.
Ok.
Du roller soccer.
Du roller soccer. Alors, ça, c'est le patin en ligne. Et puis, là, la dernière, il y a une équipe qui est partie pour faire du hand roller. Et ils sont partis au championnat du monde en Inde, invités par un milliardaire qui a décidé de faire une compétition de hand roller en Inde. Et il a invité une équipe de filles, une fille de garçons à aller faire cette compétition en Inde. Donc, on a comme ça des disciplines qui arrivent de partout. Oui. Et qui, comme on est la capitale, on nous sollicite. Donc, J'ai un boulot passionnant.
Ah bah tant mieux.
J'ai un boulot passionnant, mais aussi qui nous demande à chaque fois de s'adapter. On a même eu pendant une époque une fanfare sur roller.
Ah oui.
Qui, et donc vraiment, on est souvent surpris de toute l'inventé.
Oui. Mais justement, ce matériel, on peut le trouver partout. Cette diversité du matériel.
Alors,
Où il y a des magasins spécialisés, parce que comme vous l'avez dit, bon, c'est spécifique à chaque sport quand même. Hein.
Alors, il y a dans certains magasins qui sont historiques à Paris, et je ne veux pas me faire d'ennemis, donc je ne vais pas les citer, on a presque tout, sauf pour le roller hockey où ils ont un magasin spécifique. Et puis, pour le skate, on doit avoir une douzaine de shops spécialisés dans le skate. Donc, c'est important. Il y a la trottinette. Là, ils sont deux, trois magasins spécialisés dans la trottinette. Donc, en principe, à Paris, on trouve tout. Et puis, ils souffrent aussi, comme beaucoup, que les gens achètent sur Internet.
Oui.
Oui, bien sûr.
Sur Internet, donc...
Et ce sont des activités qui plaisent aux parents? Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de risque?
Alors, pendant longtemps, les parents disaient non, pour le skate, c'est dangereux.
Que... Ouais.
Bon. Et puis là, maintenant qu'on a l'association Relax qui fonctionne bien, les parents sont en train de changer de regard. Et puis, si on prend quand... On nous voit équiper les enfants avec les protections. Et on a quand même des poignets, des coudes et des genoux et des casques. Ça passe mieux. Il faut savoir que depuis 2021, on a une convention avec le rectorat de Paris et on fait entre 5 000 et 10 000 enfants dans les écoles primaires de Paris à découvrir le skateboard chaque année. On travaille aussi avec la DASCO, c'est les centres arrêts de Paris. Là aussi, on reçoit beaucoup de monde. Donc, effectivement, il y a encore quelques années, quand j'arrivais dans une classe et qu'on se disait « bon, ben, y a skate », les filles elles disaient « non, c'est un sport de garçon », et hop, elles allaient s'asseoir. Et là, maintenant, on est à 53% de filles qui pratiquent dans les écoles, qui pratiquent le skate.
Et comment vous expliquez justement l'attrait qu'il y a eu peut-être progressivement des filles pour le skate? Est-ce que c'est... vous avez, vous, peut-être parlé, échangé avec les filles, justement, elles vous ont peut-être donné...
Alors, ça fait depuis une quinzaine d'années qu'on a mis en place une opération qui s'appelle les filles en skate.
D'accord.
Et qu'on a réservé, on a commencé par un équipement sportif qui s'appelle le TEP Louis Braille, dans le 12e. Et on a choisi cet équipement parce que ça permet aux filles de pouvoir pratiquer sans le regard des garçons.
Ah.
Et donc, du coup, c'est quand même des 6-12 ans. Hein. Donc... grâce à la maire de la précédente mandature, on a pu obtenir presque toutes les soirées. Et là, j'ai tous les clubs de sport féminin qui sont là. Et puis, le samedi, on est avec le skateboard en plus sur la piste autour. Et puis, ça s'est augmenté avec Good Control maintenant le mercredi. Et puis là, le mardi, on est en train de mettre quelque chose dans un autre endroit. Mais au fur et à mesure, le skate, qui était la discipline où il y avait très peu de filles, on est en train de gagner un peu du terrain. Mmh. Et c'est important parce que elles n'ont pas la même approche.
Oui, bah oui.
Alors, je vais faire peut-être bondir certaines personnes, mais avant, on faisait des cours de 2 heures. Et puis, en fin de compte, au bout d'une heure et demie, les filles, elles n'écoutaient plus. Donc, on s'est mis à 1h30. Et puis, on a remarqué une chose. Ça veut dire que quand on explique à une fille un mouvement, elles le font. Quand on explique à un garçon un mouvement, il fait le contraire. Donc, automatiquement, la fille, au bout d'une heure et demie, ben, elle sait faire plein de choses, ouais. que le garçon va arriver à faire ces choses-là, mais il mettra 8 heures. Parce que lui, ben, comme un ballon, il va rester avec le ballon toute la journée. Et puis, la fille, ben, elle va apprendre et puis après, elle va s'arrêter. Alors, je suis sous le contrôle
du sportif.
Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je pense que c'est plus en rapport avec le mode d'apprentissage.
Voilà.
Je pense pas que ce soit propre aux filles ou aux garçons. C'est plus les individus qui sont tous différents. Il y a des gens qui sont beaucoup plus auditifs pour apprendre les choses, tandis que d'autres personnes sont plus visuelles ou même kinesthésiques, on appelle ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de pratiquer. Par exemple, moi, quand j'ai pratiqué le handball à haut niveau, quand on me donnait une consigne, j'étais incapable de reproduire ce qu'on m'avait demandé. Par contre, je disais, bon, on va faire, on fait un tour pour voir comment ça se passe, et après, je comprends. Et en fait, les hommes sont beaucoup plus propices à ce type d'apprentissage. Donc, je pense que c'est plus en rapport avec les individus. Mais c'est vrai que le pourcentage de garçons qui ont besoin de pratiquer ouais. est plus élevé, et les femmes sont beaucoup plus fortes aussi pour bien ouais. retenir et après réappliquer. Ça, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a un profil type pour faire vos différentes activités?
Non.
Si on fait 1m80, 80 kg, ce n'est pas un handicap par rapport à quelqu'un qui fait 1m50 et 55 kg.
On commence au carreau du Temple à 4 ans.
C'est important, ça, c'est bien.
Le roller et
à
le skate.
À 4 ans, vous les prenez les clubs.
Mais comme beaucoup de disciplines.
Ouais,
hein, et puis, je crois que le plus vieux qu'on a, il doit avoir 98 ans à faire du roller encore, oui.
Ouf, ça c'est bon.
Si, parce que quand vous pratiquez...
Oui, mais on peut tomber, hein, attention.
Oui, mais après, quand on pratique assez jeune et qu'on a pratiqué, on a le sens de l'équilibre. J'ai un souvenir comme ça. J'étais à Montréal en été et j'étais dans un centre commercial et il y avait une petite patinoire. Et j'ai vu sur la glace un monsieur qui était qui faisait une pirouette. Il devait avoir, je ne sais pas, 70 ans, 65 ans. J'étais assez étonnée, quoi. Donc, en fait, c'est plus la mémoire du corps et la pratique peut-être tout au long de la vie, qui peut expliquer ça. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le même corps à 98 ans qu'à 50, qu'à 30, 40, 20, etc.
Et puis, dans les formations, pour les débutants, on leur apprend à tomber.
Ah oui, c'est important aussi, ça. Oui.
À se relever.
Oui, oui, c'est important.
Et puis, à tomber. Ça veut dire, bon, les skateurs, eux, ils tombent.
Premier geste naturel, ils se relèvent.
Voilà. Mais les rollers... On leur apprenait à tomber et on continue à leur apprendre à tomber. Il y a certains clubs qui pratiquent comme ça. Et donc, du coup, effectivement, on se fait moins mal.
Oui.
Après, si je prends le longboard, quand je suis arrivé il y a 21 ans, on avait le concours des pizzas.
Ah oui.
Ah oui.
Ça veut dire que ben, quand ils frottaient sur le goudron, ils avaient le truc. Donc... à la fin de la journée, mesurer, et puis celui qui gagnait. puis ils ont arrêté parce qu'en fin de compte, c'est marrant au départ. Et puis après, quand ça durcit et tout ça, qu'il y a une croûte, c'est moins marrant. Quoi. Mmh. Mais bon, c'est pour, je vous raconte des petites histoires dire qu'on ne se prend quand même pas, même si on est aux Jeux Olympiques, on ne se prend pas au sérieux.
Oui, ben, c'est ce qu'il faut. Alors, quelles sont les manifestations les plus importantes dans une saison? Donc, sur Paris, on en parlait un petit peu, il y a eu des épreuves assez incroyables sur Bercy.
Oui, mais sur Bercy, on a eu des... Mais là, pour l'instant, c'est fermé, donc pas. Là, il y a un mois, on a eu une compétition de trottinette dans le 18e arrondissement.
À l'Adidas Arena
Non, à côté.
À côté, d'accord.
À côté, au skatepark qu'on appelle le GP18. Mm-hmm. Dimanche dernier, on a eu une compétition de roller derby à Louis Lumière. Mmh. C'est dans le 20e. On a comme ça des compétitions un peu partout, chaque discipline, avec des compétitions un peu partout dans Paris, quoi.
S'il y a des parents qui nous écoutent, et il y en a ce soir, comment font-ils pour inscrire leurs enfants? Vous avez tous des sites internet ou alors dans le comité, il y a quelqu'un qui peut les renseigner, les aiguiller?
Ils peuvent aller sur le Facebook marqué CDRS 75.
Ouais. Bon, ils n'ont pas tous Facebook, mais enfin, bon, non, mais... Ouais, ouais, sinon, il y a des sites Internet.
Oui, il y a des sites Internet,
oui.
Mais même, ils cherchent comité roller et skateboard de Paris, ils tombent sur là, et là,
il y a toute la liste des clubs, hein, avec les contacts, les boîtes mail ou éventuellement les contacts téléphoniques.
Voilà, on trouve. Quand on cherche, on trouve, il n'y a pas de problème.
C'est très bien. Allez, on va marquer une pause musicale, la première de cette émission. Et après, on va parler de diététique et de sportive et de coaching mental. On y va.
Time's up.
Voilà, cette émission, bah, vous pourrez naturellement la réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions des semaines précédentes, et notamment celle de la semaine dernière, où on avait parlé handball et sport moto. Allez, on va parler, je l'ai dit, de diététique sportive et puis de coach, de coaching mental, avec notre invité qui vient spécialement du Sud, et je l'en remercie donc à nouveau. Est-ce qu'on peut dire que tout sportif se doit d'avoir une diététique sportive une diététique, même le sportif lambda comme nous, de loisir.
Alors, faut distinguer quand même l'activité de loisir de l'activité de compétition, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes.
Mais bon, mais pour notre bien-être quand même.
Déjà, si on parle juste de santé et de bien-être, bien évidemment, avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est surtout la bonne hygiène de vie bien plus que la bonne alimentation, parce que ça, on peut avoir une définition différente de ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, bien s'alimenter, c'est pas juste pour le sport, c'est pas juste pour être prêt pour le match du week-end, c'est déjà pour être en bonne santé, être en forme. Voilà, ça c'est la première chose, c'est aussi un message de prévention. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la diététique sportive, c'est quand même assez précis. C'est déjà pour maximiser la performance, première chose. Deuxièmement, pour prévenir le risque de blessure. Hein, parce que souvent, on parle de performance, mais pour performer, il faut être dans la longévité. Hein, et souvent, à haut niveau, c'est souvent les personnes qui ont la meilleure génétique de base et qui, en plus d'avoir un très bon entraînement, fais attention à toute l'hygiène de vie derrière, donc fais attention au risque de blessure par une très bonne alimentation.
Alors on en parle à l'intérieur, mais on dit que la fatigue mentale peut aussi générer des blessures, la saturation mentale.
Tout à fait. Bah, ouais. Le stress, c'est la source principale de sécrétion du cortisol. Ouais. Donc, c'est une hormone qui va générer du stress oxydatif. Donc, oui, effectivement, le stress impacte négativement la performance, la sécrétion hormonale. Mais surtout, si on parle plus de psychologie, souvent, quand on a du stress, on a de la charge mentale. Mmh. Et quand on a de la charge mentale, peut-être qu'à ce moment-là, on est moins attentif aux mouvements qu'on peut faire. Et c'est là qu'on peut aussi se blesser. Donc il y a deux formes de stress. Il y a le stress lié à l'entraînement et le stress lié au fait d'être inattentif. Mm-hmm. Donc il y a un lien par rapport à ça.
D'où l'intérêt de la fonction de coach mental ?
Tout à fait. En fait, pour l'anecdote, un jour j'étais dans le train et j'étais à côté de l'équipe de France de handball.
Ah oui,
le train.
Qu'on connaît bien, on y était il y a encore quelques semaines.
Et je parlais justement, j'ai échangé rapidement avec le préparateur physique. Ouais. Je lui dis ce que je faisais, donc on a échangé sur ça. Et je lui dis, est-ce que vous avez un préparateur mental ? Et il me dit, oulala, faut pas parler de préparation mentale en France, on n'est pas encore prêt, parce que les athlètes, ils vont dire, non mais ça veut dire quoi que j'ai pas de mental ? Et donc c'est vrai que par rapport aux autres pays, c'est vrai qu'en France, on est un petit peu en retard sur la préparation mentale. Alors que préparation mentale, c'est hyper important. C'est la gestion de l'échec, la gestion de la réussite. Il y en a qui ont peur de réussir. Se préparer à effectuer un geste sportif la veille de la compétition. Moi, pour l'avoir pratiqué, en tout cas, et l'avoir fait pratiquer à des sportifs de haut niveau qui étaient jeunes dans le handball, avant le match, ça, c'est un gain qui est quand même important. En sachant que ça représente quand même 5 à 10% de la performance, quand même, le mental. Donc, c'est pas négligeable.
Et puis, c'est-à-dire qu'il faut être dedans sans être trop dedans.
On a vite fait de se déconcentrer.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est ça, c'est la gestion. Quand on a une tactique préparée la veille et qu'au final, ça ne se passe pas comme prévu, comment l'athlète va réagir ? Ça, il faut s'y préparer. Parce que c'est bien de se préparer à une tactique, mais il faut se préparer aussi à ce qu'elle ne fonctionne pas. Donc, comment ça ? Alors, ça, c'est pour le sport collectif.
Oui.
Après, on parle de sport individuel aussi. Il y a des athlètes qui ont tout pour gagner, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le mental. Donc, et ça, c'est horrible parce qu'à l'entraînement, on a tous connu quelqu'un comme ça. À l'entraînement, il est exceptionnel, mais il n'arrive pas à reproduire son niveau de performance en match. Pourquoi ? Ça se passe dans la tête. C'est pas le talent
qui manque. D'autres, c'est l'inverse. C'est compliqué aux entraînements. Nous, on le sait, il y a quelques sportifs. Et ce sont des compétiteurs. Par exemple, Florent Manaudou, il a dit...
C'est plus rare, mais
il a reconnu. Il fait 8e temps au jeu et puis finalement, il est médaillé.
Parce qu'il se sent...
C'est un compétiteur. Marie-Jo Pérec, on savait qu'elle avait des grosses difficultés à s'entraîner. Mais comme me disait un entraîneur, quand elle est dans les starts, c'est gagné, quoi.
Parce qu'ils se sentent galvanisés par l'envie de gagner. Et c'est ça qui les transcende, tout simplement. Et à l'entraînement, ils le
reçoivent. Ça se travaille,
mais... Malheureusement, c'est en soi. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Ça se travaille, mais celui qui le travaille et qui l'avait déjà de base, il sera toujours meilleur que celui qui l'avait pas et qui le travaille. C'est pareil que pour l'entraînement. Celui qui est talentueux et qui en plus travaille fort, il sera toujours meilleur que celui qui est moins bon, qui est moins talentueux et qui travaille très fort. C'est comme ça, c'est le sport de haut niveau.
Oui. Et puis préparateur mental aussi, est-ce que ça ne vient pas un petit peu déranger l'organigramme des clubs aussi? Parce qu'on a connu ça au foot, hein, où certains disaient, moi je veux être préparateur mental, mais bon, après, il y a déjà des gens qui sont en place.
Devenu,
hein.
C'est vraiment devenu maintenant, oui. Dans tous les clubs professionnels maintenant.
Oui,
c'est
des... mais ça dérangeait au début. En ce fait, regard de l'extérieur.
C'est pas que ça dérange, c'est qu'en fait, il y a eu plusieurs périodes dans le sport, pour l'histoire du sport. Avant, on avait un entraîneur, il faisait tout.
Oui,
il parlait, il donnait des conseils. Les joueurs, ils voyaient toute la journée. Ils voyaient pour les conseils pour aller dormir, ils voyaient l'entraînement, ils voyaient dans le vestiaire. Donc, l'entraîneur, il avait tous les rôles. Et on a commencé à segmenter la pratique et l'expertise. Déjà pour se dire, on ne peut pas être expert dans tout. Donc, on va avoir un expert pour chaque sphère de la performance. Mais surtout, d'un point de vue social, le message passe beaucoup moins. Quand on a un entraîneur qui s'occupe de tout, c'est pas pareil que, quand on coupe un peu avec l'entraîneur, après on va avoir le prépa mental, après on va avoir le kiné, après on va avoir le diététicien. Et donc, ça fait une coupure. Et quelque part, ça améliore la relation et ça garde ce sentiment aussi d'autorité par rapport aux joueurs, ce qui est important. Et quand on voit tout le temps l'entraîneur, le discours peut avoir moins de sens ou moins d'impact à terme.
On parlait des coachs mentaux, il y en a de plus en plus quand même, hein, parce qu'on le voit maintenant, les athlètes, Teddy Riner s'en cache pas, il a quelqu'un qui le suit psychologiquement. Hein. Non. C'est presque une psy même.
Bah, avant, c'était tabou, c'était une certaine forme d'aveu de faiblesse, dire j'ai un préparateur mental parce que peut-être que j'ai pas de mental, alors que pas du tout. Ces athlètes-là, s'ils sont là où ils sont, c'est que là aujourd'hui, ils sont passés peut-être par des centres de formation, ils s'entraînent peut-être deux fois par jour. La plupart des communs des mortels seraient incapables d'encaisser tout ce qu'ils font. Donc s'ils sont là, c'est qu'ils ont du mental, forcément. Maintenant, là, on cherche la performance. Donc on est dans la performance, un athlète qui veut exceller, qui veut pas juste être pro, qui veut exceller, qui veut faire partie des meilleurs, normalement, mentalement, il se dit, j'ai aucun problème à me remettre en question sur ça, si je peux tout ce que je peux optimiser, je l'optimise. Et si je peux optimiser mon mental, peut-être que ça va me donner ce pourcentage de plus que mon concurrent, et c'est ce qui va faire que moi je vais être premier et lui deuxième. Donc ça change tout.
Et ils le font tous dans les sports co et dans les sports individuels?
Ils le font pas
peut-être
tous.
Peut-être un peu plus dans les sports individuels maintenant. Oui,
ils
fatalement.
Ils le font pas tous.
Ils le font pas tous encore.
Ah non. Comme je disais, par devant le handball, déjà, c'est un peu tabou certaines fois. Et surtout, ça coûte de l'argent aussi d'employer un préparateur mental. Donc, dans les sports, il y a beaucoup de moyens. Forcément, c'est faisable. Dans d'autres sports, ça l'est un peu moins. Donc, c'est à la bonne volonté de l'athlète d'aller voir quelqu'un qui a un cabinet ou un libéral ou un centre de coaching et de faire cette démarche déjà personnelle. C'est moins dans le staff. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, je prends l'exemple du foot US, ils ont tout optimisé. Les athlètes, ils courent vite, ils courent très très vite, ils sautent très haut, et ils ont beaucoup de force, ils ont beaucoup de masse musculaire, ils ont tout, et ils ont même le mental, ils ont tout. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en avance, pas sur l'aspect technique et théorique, parce qu'en France, dans la prépa physique, on est juste excellent. Par contre, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, et ils ont compris que c'était une variable de la performance qui était plus qu'importante.
Est-ce que le plan diététique, est-ce qu'on est aussi beaucoup maintenant en avance?
En France?
Oui. Pas trop.
Après, faudrait comparer, mais en tout cas, je pense pas qu'on soit mauvais. Hein. Donc, la diététique, comme je disais, c'est hyper important. Après, il y a une diététique spéciale en fonction
des sports. Parce qu'un sport individuel ou un sport co, ça va être différent. Et puis, un sport qui va demander de l'explosivité, ça va être différent d'un sport d'endurance, fatalement.
Tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'il faut regarder, c'est le type d'effort. Le type d'effort, est-ce que le sport, est-ce que la performance se joue sur la durée d'effort la plus longue possible, comme les sports d'endurance, ça peut être la natation, ça peut être le marathon, le triathlon, etc.
Le vélo, le ski de fond,
tout ça. On ne peut pas tout citer, mais il y en a plein. Et globalement, on a une autre catégorie de sport où effectivement, on peut avoir, je prends l'exact opposé, les sports de force. Haltérophilie, musculation, c'est des efforts qui sont extrêmement courts et la performance se joue sur soulever une charge une ou deux fois, trois fois, etc. Donc c'est pas du tout la même nutrition. Ensuite on a les sports de combat, là où la nutrition est différente parce que la performance elle est un peu hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois de l'endurance et de l'explosivité, mais surtout il faut faire le poids pour la compétition. Donc on rentre dans des régimes qui sont assez restrictifs où on va se retrouver en carence parce qu'on se déshydrate volontairement pour la peser, puis après on se réhydrate, on remange exprès pour le combat. Et on a une quatrième catégorie, c'est tous les sports collectifs, le handball, le rugby, le foot, etc. où il y a 15-20 ans en arrière, c'était plus le beau jeu où on jouait plus en collectif, etc. où on se rend compte maintenant que la performance, c'est-à-dire marquer un but, marquer un essai, etc. se joue sur des phase de travail beaucoup plus courte. C'est-à-dire, ça se joue sur une accélération, un dribble, des phases qui durent 15-20 secondes. Donc, c'est pour ça qu'on a vu les physiques des footballeurs, des rugbyman changer drastiquement depuis 20 ans. Ah, c'est plus du tout les mêmes physiques, parce que l'exigence du sport n'est plus la même. Donc, c'est pas du tout la même diététique.
Alexandre, qui est parfois entraîneur, qu'est-ce que t'en penses?
Ah bon, après, je suis entraîneur à un faible niveau aussi.
Peu importe.
Sinon, on pouvait avoir des préparateurs mentaux et des diététiciens, ça changerait beaucoup. Mais en fait, j'aimerais que tu expliques, et je pourrais te tutoyer, la différence entre un psychologue et vraiment un préparateur mental. Et aussi, qu'est-ce que dans tes entretiens que tu as avec les joueurs ou avec les équipes, qu'est-ce que tu leur dis en fait pour justement optimiser leur performance?
Déjà, l'aspect pathologique. Je pense que quand il y a une pathologie mentale, c'est plus le rôle du psychologue. Je pense que le préparateur mental, il a quand même ses limites. On fait affaire à des personnes qui sont des bien portants, c'est-à-dire qui n'ont pas de pathologie, pas de traumatisme. Donc je pense que quand ça devient beaucoup trop compliqué à gérer, beaucoup plus ancré, là, il vaut mieux faire appel à un psychologue du sport qui pourra traiter. Alors, si je fais le lien avec la diététique, on peut parler d'anorexie, on peut parler de bigorexie, on peut parler d'hyperphagie, etc. On peut détailler. Mais certains sports sont plus à même à créer des troubles du comportement alimentaire, des troubles de l'image de soi, etc. Par exemple, la boxe ou les sports de combat. Forcément, c'est tellement restrictif pour faire le poids qu'après, le rapport qu'on a avec l'alimentation après le combat, il est totalement différent. Voilà. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Les sports de très forte endurance pour les triathlètes, etc. Leur système digestif, ils ont tellement besoin de manger, de calories pour tenir en fait tous ces entraînements, etc., que le jour où ils reprennent une vie normale, leur métabolisme il est tellement augmenté qu'après ils limitent leurs dépenses, soit ils prennent du poids, soit leur système digestif est complètement déréglé. En fait.
Les frites qu'on n'a pas mangées, on va les manger.
C'est ça en fait. C'est ça,
en quantité. Donc, quoi.
Et après, on peut parler aussi de nutrition avant la compétition, pendant la compétition, post-compétition. C'est hyper vaste comme sujet, mais en tout cas, bien sûr, le lien, la différence entre le psychologue et le préparateur mental, voilà, c'est vraiment la pathologie. Et voilà. Donc,
après, et comment vous expliquez les burn-out des sportifs? Il y en a de plus en plus, malgré tout.
Ils sont peut-être plus...
On en parle de plus en plus. La Cour en a parlé récemment dans un livre, et il y aura bientôt
Il y en a beaucoup,
un thème. Oui, de plus en
Surtout dans les centres de formation aussi. Oui.
Le burn-out, c'est vraiment bien diagnostiqué à être en burn-out. C'est pas juste avoir de la surcharge mentale. Burn-out, pour les sportifs qui partent en burn-out, c'est vraiment un lien avec une énorme charge de travail couplée à une attente du public ou de l'entourage qui est très forte. Et quand on se prépare pendant des mois, des années, peut-être, et qu'on a en plus beaucoup d'attentes autour de soi, il y a beaucoup de sports, comme par exemple le tennis, où l'entraîneur, c'est le papa.
Eh oui.
Souvent. Et en fait, on part en burn-out, pas par rapport à la charge d'entraînement, c'est charge d'entraînement plus le fait que un entraîneur n'aurait pas ce genre de discours si c'était pas son enfant, etc. Donc ça peut vraiment avoir un gros lien par rapport à ça.
Mais je vais me permettre de rebondir sur ce que vous dites, parce que, alors, il y a le rapport père-entraîneur avec le coaché, l'élève, mais par rapport à ce que disait Alexandre tout à l'heure, sa question a été très intéressante, parce que je pense que, comme vous avez dit, il y a des pathologies qui font que la seule préparation mentale n'est pas suffisante et qu'il faut aussi peut-être faire un travail sur le long terme, et qui est peut-être les deux qui soient couplés, pour que le sportif puisse se libérer de ce qui l'empêche peut-être d'avancer. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je peux prendre un exemple. Ouais. C'est vrai. C'est qu'en fait, le travail, c'est jamais... En fait, à partir du moment où on essaie d'isoler un problème, c'est qu'on n'a pas compris le problème.
Il y a des rapports peut-être à l'enfance, aux relations avec...
Il peut en avoir. Ouais. Mais je prends l'exemple d'un quelqu'un qui a été conditionné à être un sportif de haut niveau par un papa qui n'a pas réussi à faire carrière. Le père, on le voit souvent ce schéma-là.
On s'identifie un peu.
On s'identifie, donc on va s'identifier à la carrière de son fils. Donc dès le plus jeune âge, on va lui dire ne mange pas ci, ne mange pas ça, ça fait grossir, c'est pas bon. Et finalement, l'enfant, il a pas vraiment d'enfance. Donc le jour où il va avoir droit de manger ça, il va associer avec ça comme quelque chose, une certaine forme de liberté qu'il n'a pas eu. Il a été privé un petit peu de tout ça. On peut également en parler, pour faire le parallèle par rapport à ça, c'est que effectivement la préparation mentale ne suffit pas, par exemple, pour tout ce qui est hyperphagie, boulimie, etc. Parce que c'est en rapport aussi avec la diététique, forcément. Je pense qu'il y a des mythes nutritionnels qui persistent dans certaines cultures sportives, comme par exemple, je sais pas moi, certains sports où on dit il faut manger tel type d'aliments parce que sinon tu feras pas le poids. Alors qu'en fait, bah, c'est juste des mythes parce que c'est... souvent les entraîneurs ils fonctionnent comme il y a 20 ou 30 ans. Alors qu'en fait, maintenant, la nutrition et la diététique, ça a quand même évolué. On sait très bien qu'il y a plus d'aliments interdits ou autorisés.
Ouais. Les compléments alimentaires, c'est bon, c'est recommandé ou avec modération?
Bah, ça dépend.
Ouais.
Ça dépend quel type de complément. Si c'est des compléments pour axer la récupération, oui, ça peut faire office de complément. Mais si on traçait une pyramide dans l'ordre des priorités, des choses à gérer pour la performance, il y a un, l'hygiène de vie, deux, bien s'entraîner. Parce que sans une bonne hygiène de vie, on ne peut pas bien s'entraîner. Ouais. Une fois qu'on s'entraîne bien, on a une bonne nutrition. Et une fois qu'on a une bonne nutrition, qu'on a les trois strates qui sont validées, là, on peut éventuellement se dire, OK, il reste 10% à aller chercher pour optimiser la récupération. Peut-être que je vais me supplémenter. Voilà, donc bien évidemment, mais
ouais.
C'est important.
Après, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est le sommeil, finalement. Le sommeil, c'est super important et... Je prends l'exemple d'un sportif qui est connu de tous, il n'y a pas que lui qui fait ça d'ailleurs, mais Cristiano Ronaldo qui lui a poussé à son paroxysme, l'hygiène de vie au maximum, etc. Lui, il fait des micro-sommeils, des micro-siestes à chaque fois, des micro-séquences de récupération. Qu'est-ce que tu en penses à peu près de ça, toi ?
Le sommeil, c'est un vaste sujet. Après, chaque individu est différent. Oui. Il y en a qui fonctionnent très bien avec 6 heures de sommeil, comme 8 heures. D'autres, il y en a qui ont besoin de 10. Après, ce qu'on sait aussi sur le sommeil, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, chez certains individus, c'est pas obligé qu'ils soient obligés de dormir 8 heures d'affilée. Mmh. Ils peuvent très bien faire 6 heures, puis après deux petites siestes. Et c'est vrai que les petites siestes, quand c'est... que c'est pas la sieste de l'après-midi après le repas et on se réveille à 16h où on est vraiment totalement déconnecté. Non, c'est les siestes contrôlées, etc. Ce qui compte, en fait, c'est le moment sur la phase de sommeil à laquelle on se réveille. Si on se réveille quand on est en sommeil profond, paradoxal, c'est vrai que ça va être très, très compliqué. On a l'impression d'être très fatigué. Tandis que si on se réveille à la fin d'un cycle de sommeil, c'est-à-dire de manière naturelle et pas avec un réveil, là, forcément, on se sent reposé. Donc des fois, on peut dormir 8 heures, se réveiller en plein milieu d'un cycle parce qu'on a mis un réveil et être très fatigué. Donc ce qui compte, c'est de favoriser le réveil naturel.
Voilà,
donc
ça, c'est et puis bien. Surtout, aller au lit quand on a sommeil. Pas aller au lit pour le principe d'aller au lit, on ne dort pas pendant une heure ou deux, on perd de l'influx. C'est arrivé, hein, il y a des médaillés olympiques qui ont perdu des médailles olympiques parce qu'ils ont laissé de l'influx. Au lieu de jouer aux cartes le soir avec les copains, les copines... ils sont allés dormir et puis ils n'ont pas dormi, ils cogitaient, ils n'ont pas trouvé le sommeil et puis ils ont laissé de l'influx.
Ça
aussi, c'est bien se connaître.
Le sommeil, c'est qu'il y a, y a une sécrétion hormonale aussi de mélatonine qui est naturelle, qui se fait déjà après le repas, arrivé à une certaine heure. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que par rapport, si on fait le lien aussi avec la nutrition, longtemps on a dit que finalement les glucides, par exemple les glucides ou les féculents le soir, c'était mauvais pour la digestion, il fallait manger léger le soir, etc. Alors qu'on s'est aperçu que sur les dernières études, finalement manger un petit peu plus consistant et manger beaucoup de glucides le soir, ça favorisait la sécrétion de mélatonine et un sommeil plus réparateur. Donc les conseils qu'on donne maintenant ne sont plus les mêmes que ce qu'on donnait il y a 20 ans, parce que les études changent, etc. Pourquoi les études changent? Comme le sport il est de plus en plus médiatisé, il y a de plus en plus d'argent en jeu, donc la performance est de plus en plus importante, donc on essaie de regarder comment optimiser tout. Donc effectivement, après la mélatonine c'est un super sujet aussi, le sommeil. Moi les meilleurs conseils que je donne à tous les sportifs, que ce soit des sportifs de haut niveau ou même
tout le monde,
pour être bien dans sa peau, c'est déjà, voilà, manger à votre faim le soir avant d'aller dormir. Voilà, donc ça favorise un sommeil. Après, essayez de vous écouter. Si quand vous mangez lourd, vous dormez mal, ben mangez léger et inversement. Donc on est tous différents. Moi personnellement, si j'ai pas le ventre rempli, j'arrive pas à bien dormir. Et quand on commence à avoir les signes de sommeil, les paupières qui sont lourdes, etc., il faut pas lutter.
Allez,
il faut tout de suite aller se coucher parce que si on manque le coche, c'est compliqué et après on se dit j'arrive pas à dormir.
Est-ce que les interdits, c'est bon? Parce que psychologiquement...
Qu'est-ce que vous appelez interdit?
C'est-à-dire qu'on est sportif de haut niveau et puis on va se laisser un petit peu aller, une soirée. Mais psychologiquement, c'est hyper bon, ça, des fois.
En fait, faut regarder qu'est-ce qu'on regarde. Est-ce que c'est bon pour la récupération?
Le sportif qui veut aller prendre un petit hamburger avec son enfant, s'il y va avant un match, tout ça et tout. Alors que...
Ça
est-ce que psychologiquement...
En fait, ce qui compte, c'est le timing.
Oui.
Parce que
c'est arrivé, ça.
Sur le papier, pour la performance, si c'est la veille d'un match, non, c'est pas bon.
Oui.
Par contre, si psychologiquement ça lui fait du bien, le sujet c'est plus le même.
Est-ce
que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux pour performer d'être bien dans sa tête et d'avoir passé un bon moment convivial avec ses amis, avec son fils? Je prends l'exemple, si la veille d'un match c'est l'anniversaire de son fils, pour un joueur. Bah, est-ce que c'est bien de se priver et de ne pas faire l'anniversaire de son fils et qu'il soit frustré mentalement et qu'il y pense, mais du coup, bah, il a respecté sa diététique, ou est-ce que c'est mieux qu'il aille profiter et qu'il revienne rebooster mentalement, parce qu'on a dit mentalement, bah, ça booste ses performances. Mais voilà. Donc ça dépend. Après, on parle pas d'en manger un burger.
Non, mais
hamburger pizza, je précise. Hein. Hamburger pizza, c'est quand même les meilleures options qu'on puisse avoir. Parce que finalement, c'est quoi ? La pizza, c'est de la pâte. Avec, si on mange de la viande hachée ou du poulet dessus, c'est pas si mauvais que ça. Et hamburger, c'est un steak. Si de qualité, avec un peu de tomate, de la salade et un steak, c'est un bout de pain. Donc c'est bien aussi. Donc c'est surtout, c'est ce que je disais.
C'est la crème qui est bon.
C'est la culture qui va. C'est la culture, c'est de se dire. Voilà, quand on est un sportif, on mange riz, dinde, haricots verts et on doit se frustrer parce que c'est comme ça qu'on est performant. Alors qu'en fait, bah, le corps, il ne fait pas la différence entre riz, dinde, haricots verts ou si on fait, je ne sais pas moi, on se fait un wrap maison avec du poulet, etc. C'est juste que l'image des gens, c'est ok, ça c'est plaisir, alors que le riz, dinde, brocoli, bah, c'est pour les sportifs parce qu'on souffre et parce que faire du sport au niveau, c'est souffrir. Ben non, le corps, il va faire la différence, il va digérer la même chose et il faut en tout cas se faire plaisir. Moi, c'est le message que je passe, c'est si vous pratiquez un sport, que ce soit à haut niveau ou à l'échelle du loisir, mais en fait, il faut se faire plaisir, mais de manière réfléchie. Voilà. Et c'est là qu'il y a un intérêt à aller voir un diététicien qui est moderne, je précise, qui est moderne et qui a une vision des choses aussi moderne, pour comprendre qu'en fait, la diététique, c'est pas juste se priver, c'est on peut se faire plaisir.
C'est ça qui est important.
Tout en respectant ses objectifs sportifs ou de santé ou de perte de poids. Et ça fonctionne. Les deux sont faisables.
Un petit mot sur le mental. On parlait du burn-out des sportifs. Il y a un énorme problème. Maintenant, ça fait le thème d'une émission un jour ici. C'est les réseaux sociaux.
Par rapport à quoi ?
Bah, par rapport aux insultes qu'ils peuvent avoir, par rapport au harcèlement qu'ils peuvent avoir, justement en fonction des résultats, de cette demande de résultats, de cette collecte de résultats.
Moi, je pense qu'ils sont, pour les sportifs de haut niveau. Hein.
Oui. Alors, ils sont un petit peu suivis maintenant.
Voilà,
c'est un petit
je pense que même depuis le centre de formation, maintenant, ils sont tellement conditionnés à ne pas faire attention aux insultes, etc., qu'ils sont déjà un petit peu plus sensibilisés, on va dire. Maintenant, il y en a toujours qui sont affectés négativement ou positivement. Tous ils disent en interview je regarde pas les réseaux, je fais pas attention, etc. Maintenant, on est tous humains, on est tous sensibles aussi à la performance et aux insultes qu'on peut recevoir. D'autant plus l'intérêt d'avoir un préparateur mental et une bonne équipe aussi de communication. Mais encore pareil, ça dépend le sport, ça dépend le budget. Ils ont pas les mêmes équipes, ils ont pas les mêmes professionnels autour.
Bon, Clément, c'est plus dur de coacher en entreprise ou un sportif ? C'est pour faire la transition.
Alors, honnêtement, si on parle de dureté, moi, je prends plus de plaisir à coacher en entreprise que les sportifs. Parce que les sportifs, c'est énormément d'exigences. Il y a tout le club autour. On peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Souvent, il y a quelqu'un du staff qui regarde tout ce qu'on fait. Donc, c'est très délicat. Moi, personnellement, par rapport à mon parcours, je prends plus de plaisir à coacher en entreprise. Quand je dis coacher en entreprise, c'est faire de la sensibilisation, de la prévention santé pour les salariés, pour les collaborateurs.
C'est-à-dire aller faire du sport le midi ?
Non, c'est pas forcément ça. C'est des conseils simples de la formation. C'est ça. En fait, c'est les gestes et postures au travail pour faire attention à sa santé du dos au quotidien. Savoir quoi manger à la pause du midi pour ne pas avoir le coup de barre et pour être en forme. Quand on a un boulot qui est sédentaire, bah c'est vrai, parfois on a un poste où on est très actif au début de sa carrière et puis après on monte en grade, en poste, et on devient très sédentaire. Bah on continue à manger pareil et au final on prend du poids, on ne comprend pas pourquoi. Mais parce qu'on n'a pas les bons réflexes. Donc c'est aussi un vrai sujet, ça aussi. Et l'alimentation, ce n'est pas que pour les sportifs. L'alimentation, c'est le quotidien de tout le monde. Donc autant avoir les bons réflexes pour être en forme, en bonne santé, être productif. Et moi, c'est la formation que je fais aussi en entreprise. C'est pour que tout le monde soit en meilleure forme, en meilleure santé. Et ça sert à tout le monde. Ça sert pour l'employeur. Ça sert pour aussi les salariés parce qu'ils sont dans un contexte de travail où ils se sentent mieux, mieux considérés. Parce qu'il y a un professionnel qui vient de leur faire de la prévention. Et pour l'aspect sportif, ça peut être mis en place aussi. Des séances de sport à la pause du midi ou des cours de stretching, des cours de yoga, etc. Pour favoriser la réduction du stress. Ouais. Parce que le stress, c'est le mal de notre siècle, bien évidemment.
Alain, vous en pensez quoi de tout cela ? On pourrait l'appliquer au skateboard, hein ?
Ben, on aimerait bien.
Oui.
Mais dans la liste, il y a une discipline qui s'appelle la descente. Et c'était sur le col d'Izoard, le Mont Ventoux, ou Perragueuse. Et c'est
qu'on connaît bien sur les routes du Tour de France. Hein.
Ouf. C'est descendre en longboard ou descendre en luge ou en botte. La luge, c'est 2,25 m par 9 cm du sol.
Ouais.
On fait du 120-130 km heure. Quoi. Ouais. Donc, disons, on est jeune. Au départ, on fait un peu n'importe quoi. Et puis, si on veut faire, et je vous rejoins, si on veut faire de la performance, il faut une certaine rigueur, il faut une certaine, un certain travail. Et que ce soit en skate, slalom, c'était un Italien qui, à chaque fois au Trocadéro, remportait. C'était un athlète.
Mmh.
Voilà. Et en descente, en longboard, c'était un Suisse. Là, on pouvait filmer sa position de pied. Il ne bougeait pas et tout ça. Donc, c'était un travail énorme. Et tout le monde disait, bon, tu prends une planche et puis tu descends. Ben non, c'est vraiment un travail. Et puis, je pensais à la préparation. Effectivement, ça a été une discussion qu'on a pu avoir autour des skateurs pendant les Jeux Olympiques. On pense qu'ils se sont... ils n'ont pas réussi à rentrer dans la compétition, on pense. Et pourtant, les deux personnes qui étaient là, elles avaient gagné toutes les compétitions, toutes les sélections dans tous les pays où elles étaient passées. Mmh. Donc, elles avaient bien fait. Et puis, à un moment, aux Jeux Olympiques, je pense qu'il y a une pression tellement énorme que c'est difficile. Mmh. Et j'ai pour
les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans.
Oui.
Donc, la carrière, elle est très courte. On peut en faire quoi, 2, 3 pour les meilleurs, ça dépend les sports. Ben là, par exemple, les gymnastes, il en fait peut-être 2 maximum.
Ben oui. Donc, le judo, il veut faire la 5e.
Ouais, hein. Oui, bah, il va la faire.
Mais c'est un cas exceptionnel. Oui. Donc au final, c'est comme ça. Et puis,
Allez, la deuxième pause musicale et ensuite, on passe à la pachoute.
Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs? Si tu as quelques chagrins pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Change de ciel, viens voir la terre, voir le soleil et les rivières. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Le premier vent du matin sera ton ami quand tu iras t'asseoir au jardin. Et puis le temps passera et tu me diras tout mon passé, il est loin déjà. Tu ouvriras une fenêtre un beau matin, va renaître. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils perceront ton cœur. Toi qui es tout
oiseaux t'attendent.
On va maintenant parler de notre page foot avec notre ami Stéphane Dezenclos. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir, bon Stéphane, ça a été le week-end du Paris FC finalement.
Ah bah ouais, ouais, la semaine du Paris FC, ouais, merveilleuse semaine pour le Paris FC hein, qui a remporté la Coupe de France et qui monte en, en Liga. Bon, alors on s'y attendait un peu pour la Liga, la Coupe de France c'est un peu plus un exploit, bien que pas non plus une grosse surprise.
Oui, on va avoir naturellement l'occasion d'en reparler. On va naturellement commencer par les Coupes d'Europe, avant donc ce match retour au Parc des Princes mercredi pour le Paris Saint-Germain. J'ai envie de dire, ballotage favorable pour le PSG après sa victoire à Arsenal 1-0.
Ah bah oui, clairement ballotage favorable. Maintenant, il faudra faire bien sûr très attention, essayer de gagner ce match, jouer pour le gagner et bien sûr, ballotage favorable, tout à fait, bien sûr. Hein, c'est normal que les joueurs d'Arsenal disent, comme rappelez-vous un peu dans le sens inverse, les joueurs du Real Madrid avant justement de jouer contre Arsenal, qui, si on les écoutait, on fasse une journée à les écouter, c'est limite, s'ils n'avaient pas perdu, on entrait sur le terrain, les Anglais. Donc, c'est normal de faire de la tox et tout. Après, il faut regarder ce qu'il est. Arsenal termine quand même la saison aussi, quand même très difficilement, avec beaucoup d'absents et très difficilement sur ses derniers matchs. Et ça va être très, très compliqué pour eux, à mon avis, de venir chercher la qualification au Parc des Princes.
Ouais, alors contre qui ? Barcelone ou l'Inter de Milan hein ? On sait qu'il y a toujours un match fou dans une saison de Ligue des Champions. L'an dernier, c'était Real Madrid, Manchester City. Cette année, ça sera ce Barcelone-Inter de Milan, 3-3, après le match aller.
Ouais, match
complètement fou. Hein, ouais.
Ouais, avec le Barça qui récupère Lewandowski pour l'occasion, hein, je pense pas qu'il débutera, mais en tout cas il est dans le groupe. Donc match de fou. Moi, j'aurais quand même tendance à donner un petit avantage aux Espagnols quand même pour ce match, mais bon, c'est très 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 serré quoi.
Alors on va rappeler qu'en Ligue Europa en demi-finale aller, hein, on s'achemine vers une finale 100% anglaise puisque Manchester United a battu l'Athletic Bilbao 3-0 et puis que Tottenham donc, a pris l'ascendant sur Bodo Glimt 3-1 et en Ligue Europa Conférence Chelsea aussi a pris une belle option en s'imposant donc à Durgan Jen 4-1 alors que ça sera un petit peu plus serré entre le Betis Séville et la Fiorentina pour le match retour, 2-1 pour le Betis Séville, mais on sait que la Fiorentina est une équipe habituée donc à cette Ligue Europa Conférence.
Ouais, tout à fait. Méfiance quand même hein, pour les Anglais Tottenham. Je pense que c'est pas non plus gagné. C'est toujours pareil hein, quand on regarde les performances de Bodo Glimt sur son terrain. Ce sont que des victoires, ce sont aussi des scores assez larges. C'est un petit terrain synthétique qui peut dans un stade qui peut accueillir 8000 personnes maximum. Donc c'est une ambiance très très particulière. Et ils ont déjà dans ce stade-là, ils ont déjà passé 6-1 à donc déjà dans Mathieu Porto en face de 6-1. C'était il y a trois ans, je crois. Mais ils ont battu Porto là en phase de ligue sur leur stade. Ils ont gagné quasiment tous leurs matchs. Donc ça va quand même être chaud quoi, pour les Anglais.
Allez, on en vient donc à la Ligue 1, la 32e journée où Paris Saint-Germain a connu sa deuxième défaite consécutivement, hein, battue donc par Strasbourg 2-1. Une journée qui avait commencé par la victoire de Nice devant Reims 1-0. Toulouse a battu Rennes 2-1. Victoire de Monaco qui pratiquement condamne Saint-Etienne à Saint-Etienne 3-1. Angers qui s'impose dans un match important à Nantes 1-0. Victoire de Lens aussi qui, une nouvelle fois, donc, a contrecarré les espoirs européens de Lyon. battu 2-1 à domicile. Montpellier battu à Brest 1-0. Victoire du Havre, ça peut être important pour les Havrais, hein. Donc à Auxerre 2-1. Et puis nul entre Lille et Marseille, 1 partout. Donc le Paris Saint-Germain, on l'a dit, en tête avec 78 points. Devant Marseille, 2e 59, 3e Monaco 58. 4e, 4 équipes, Nice, Lille et Strasbourg avec 57 points. Et 7e Lyon 54 points. Et en bas de tableau, donc Reims et Angers 13e avec 33 points. 15e Nantes 32 points. 16e Le Havre 31 points. 17e Saint-Etienne 27 points. Et 18e Montpellier 16 points. Donc on le dit, on l'a répété, mais plus que jamais, les deux dernières journées vont être décisives et pour la qualification à l'Europe et pour l'équipe qui jouera les barrages.
Ouais, ouais, tu vois, bah, on peut dire que peut-être la. Comment dire la. On peut éventuellement penser que l'avant-dernière journée, la 33e, soit décisive pour le bas de tableau. Mais en tout cas, vu le nombre de clubs qu'il y a en lice, en haut pour l'Europe, ça ne sera pas le cas, c'est sûr et certain. Hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de clubs. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura tout le monde aura encore des chances lors du dernier match. Quoi. Mais c'est sûr que c'est assez. C'est assez incroyable ce qui se passe, c'est assez incroyable et exceptionnel, avec normalement si tout se passe bien, c'est clair que ça se jouerait surtout entre Le Havre et Saint-Étienne pour savoir qui va être barragiste. Et je pense que les autres, si on regarde les calendriers des uns et des autres, hein, c'est comme ça que ça devrait se jouer. Maintenant, rien n'est normal, surtout dans les derniers matchs. Dans les derniers matchs, on l'a vu avec Le Havre qui gagne à Auxerre, par exemple. C'est ce que je disais pour ce que j'ai toujours dit aussi pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi le Paris Saint-Germain perd ses matchs contre Nice et Strasbourg, entre autres choses, c'est aussi parce que ce petit supplément d'âme, ce petit supplément d'envie et tout, bah ils l'ont pas. Ils sont battus par Nice et par Strasbourg à ce niveau-là, quoi. Peut-être qu'il fait pencher la balance d'un côté et de l'autre, quoi, pour ces choses-là, quoi. Donc, mais après. Lyon n'a pas bénéficié contre Lens, au contraire même. Donc c'est un peu tout ça est un peu c'est le destin. On va voir ce qui va se passer. C'est sûr que tout peut arriver.
Oui, on va se régaler aussi bien donc pour les places européennes, hein, puisque il y a simplement donc 2 points qui séparent 5 équipes, et puis même pour le barrage, puisque il y a que 2 points qui séparent aussi 4 équipes. Donc tout reste jouable pour cette donc pour ces deux dernières journées. C'est pratiquement fait pour la Ligue 2. Hein, on connaît à peu près le verdict. Hein, Paris FC est allé faire nul à Martigues 1-1. Victoire de Ajaccio devant Lorient 2-1 et Machul entre Metz et Rodez 3-3. À noter aussi le nul entre Dunkerque et Laval 0-0, entre Guingamp et Bastia 2-2, victoire de Clermont devant Annecy 3-2, et nul entre Caen et le Restart 1 partout. Donc c'est fait, puisque Lorient est en tête avec 68 points, devant le Paris FC 66 points. Ces deux équipes monteront en Ligue 1, mais attention, le Paris FC peut être encore champion pour la Ligue 2 cette saison. Troisième, Metz, 62 points, qui devrait jouer le barrage. Et puis ensuite, quatrième, Dunkerque, 55 points, qui jouera le pré-barrage. Et pour l'autre pré-barragiste, il y a encore un petit peu de suspense. Hein. Cinquième, Guingamp, 52 points. Et sixième, Laval, 50 points. Et en bas de tableau, donc quinzième, le Restart, 37 points. Qui va se maintenir en Ligue 2. Seizième, Clermont et Martigues, 32 points. Et 18e, Caen, 22 points. Donc, Clermont-Martigues, bah, ça va se jouer pour le barrage.
Voilà, ça va être un duel à distance. Ouais, ça veut dire ouais. Clermont qui va jouer à son dernier match de la saison à Rodez. Oui. Et puis, Martigues, par contre, qui va jouer à
Lorient.
À Lorient, qui voudra gagner pour fêter son titre, pour être champion de France de Ligue 2. Et donc, c'est vrai que on pourrait penser peut-être Clermont a un peu plus de chance. Je ne sais pas, là, au classement, c'est Clermont qui est devant là, pour l'instant, ou c'est Marco?
C'est Clermont qui est... Non, ils sont à égalité, mais il y a un goal avrage qui est quand même supérieur pour Clermont. Moins 16 contre moins 23 pour Martigues.
Selon moi, ça ne bougera pas. Oui. Selon moi, ça ne bougera pas.
Ils vont finir avec peut-être le même nombre de points, et c'est le goal avrage qui fera la différence.
Le même nombre de points, je ne sais pas. Clermont peut... Oui. Un match de fin de saison, Clermont peut prendre un match nul, par exemple, à Rodez. Alors que Martigues perdra, Et en tout cas, je pense que Martin ne fera pas de résultat, ne pourra pas faire de résultat à Lorient, quoi. Donc ça va être compliqué, ça va être très compliqué pour eux. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, hein,
tout est possible.
Hein, mais bon, c'est ce que je disais, ce petit supplément d'âme. Si Lorient était déjà champion, avait un point ou deux points de plus, j'aurais parié que Martigues faisait un résultat à Lorient. Mais c'est pas le cas.
Et non.
Donc ça va être très très compliqué, je pense, pour les provinciaux de faire un résultat en Bretagne.
Allez, 32e journée de National, Versailles est allé gagner à Quevilly-Rouen 3-1, donc c'est sûr, Versailles jouera en National la saison prochaine. Le Paris 13 Atlético a compté des nuls devant Valenciennes 1-1, donc au Stade Pelé. Nul aussi pour Châteauroux devant Dijon 3-3, et victoire de Nancy devant Nîmes 1-0, et nul entre Le Mans et Rouen 2 partout. Et puis Boulogne-sur-Mer qui a été battu à domicile par Sochaux 3-2. Donc c'est Nancy qui est en tête avec 61 points devant Le Mans 2e 55 et 3e Boulogne-sur-Mer 52. Là, les positions ne bougeront probablement plus. Et par contre, en bas de classement, 12e Versailles, Villefranche-en-Beaujolais et Quevilly-Rouen avec 34 points. Et là aussi, ça ne devrait pas changer. Et 15e, le Paris 13 Atlético, 31 points. Attention, parce qu'il y a Châteauroux 16e avec 29 points et 17e Nîmes, 28 points. Donc là aussi, rien n'est joué pour le Paris 13 Atlético. Hein. Il y a encore une menace à deux journées de la fin.
Ouais, il y a encore une menace, bah, ils le savent, hein, ça, ils vont devoir aller batailler jusqu'au bout. On peut signaler aussi qu'on a un club de la région Île-de-France.
Oui, j'allais le dire, un Fleury-Mérogis qui a très très longtemps été aux portes, hein, qui a souvent raté pour pas grand-chose. Cette fois-ci, ils joueront la saison prochaine donc, en national avec Le Puy et Saint-Brieuc qui retrouvent donc, au team national.
Ouais, donc c'est... Imaginons que si... Le Paris Atlético arrive à se maintenir. Ça fera
trois clubs.
Versailles, Paris Atlético, Fleury, ça fait trois clubs de trucs. Puis bientôt Créteil qui va être acheté. Hein,
Va
être acheté
par Xavier Niel, oui, on a lu ça.
Ouais, qui va certainement bientôt au moins retrouver le national, je pense, quoi, parce que quand on a un peu d'argent. Ça compte beaucoup à ce niveau-là, plus que dans les niveaux du dessus, quoi. Donc avec un petit peu des gros budgets, on arrive à retrouver le monde professionnel assez rapidement, quoi. Donc on peut espérer. L'Île-de-France se porte bien, avec en plus le Paris FC qui monte en Ligue 1, le Red Star qui se maintient.
On est content.
Ouais, c'est bien. C'est chouette pour les Parisiens, les passionnés de foot.
Allez, on finit avec les féminines, justement. Là aussi, c'est chouette. Le Paris FC qui a battu le Paris Saint-Germain, 0-0 et 5-4 au tir au but, avant une dernière journée qui sera donc la dernière journée de la saison régulière mercredi, et les play-offs la semaine prochaine, où on devrait déjà retrouver les deux équipes au Parc des Princes pour une demi-finale Paris Saint-Germain-PFC. Première victoire dans l'histoire de la Coupe de France du PFC. Hein.
Voilà, et puis on va retrouver les deux équipes et pas les deux coachs, puisque Fabrice Abriel a été écarté de son poste. Je comprends pas trop pourquoi ils ont attendu si tard pour le faire et qu'ils l'ont pas fait plus tôt, parce que c'est une saison c'était du n'importe quoi un peu toute la saison au Paris Saint-Germain. Donc c'est un peu, ça lui pendait au nez avec ce qui s'est passé. On n'est pas dans le club, on ne sait pas, hein, mais c'est quand même une saison tout à fait complètement ratée du Paris Saint-Germain, qui quand même, malgré tout, au moment où on se parle, peut encore être…
ils peuvent trouver leur saison, hein, ils peuvent être championne de France. Hein.
Ouais, ils peuvent être championne de France, ce qui serait incroyable, mais avec un autre entraîneur, parce qu'il ne sera pas lui, je ne sais pas qui… Ils vont peut-être appeler Bernard Mendy, mais bon, on ne sait pas.
Très bien. Ok, merci Stéphane. On reparle tout ça la semaine prochaine. Il devait sûrement y avoir des problèmes avec, je sais, certaines filles du côté donc, du PFC féminine. On parle de tout ça la semaine prochaine. Merci Stéphane.
Ok, pas de problème.
Belle semaine.
Voilà.
Belle semaine. Bam.
Allez, puis maintenant, on enchaîne avec les autres infos sportives avec Alexandre. Et un grand week-end de sport mécanique, Alexandre.
C'est ça, Philippe. On commence ce journal des sports avec le très disputé Grand Prix de Miami en Formule 1. Et c'est Oscar Piastri qui le remporte, quatrième Grand Prix pour lui cette année. Il est suivi par son coéquipier Lando Norris. George Russell complète le podium. Grâce à ses deux pilotes Piastri et Norris, McLaren prend de l'avance au classement des constructeurs. L'écurie britannique est leader avec 241 points, suivi par Mercedes 141 points et Red Bull 105 points. En tennis, on a quelques encablures du Roland-Garros maintenant.
Trois semaines.
Et pour bien préparer le Grand Chelem, on a eu le droit au tournoi de Madrid ce week-end, remporté par Casper Ruud, le Norvégien. Il a battu Jacques Draper en finale 7-5, 3-6, 6-4. Et chez les femmes, c'est la Russe Sabalenka qui a gagné contre Coco Gauff 6-3, 7-6. En cyclisme, on connaît le vainqueur du Tour de Romandie en Suisse. C'est le Portugais João Almeida qui termine la course en 16h50 minutes et 44 secondes, suivi par le Français Lenny Martinez et l'Australien Jay Vine. En rugby, Philippe, ouais, on connaît la finale de la Champions Cup.
Les affiches des Coupes d'Europe.
C'est bon pour nos clubs français. Northampton en Champions Cup a battu Leinster 37-34 et Bordeaux-Bègles a battu le Stade Toulousain 35-18. On aura donc une finale Northampton-Bordeaux-Bègles le 24 mai à 15h45. Et en Challenge Cup, donc l'équivalent de la Ligue Europa pour le rugby, Lyon a battu le Racing 92 29-15 et Basse a battu Édimbourg 39-24. Finale donc Lyon contre Basse le 23 mai à 21h.
Donc peut-être un doublé français à travers ces deux coupes d'Europe.
Possible. C'est une bonne saison pour Lyon, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir performer autant. En basket, c'est fini pour le Paris Basket en Euroleague, par contre.
Et oui,
les Parisiens sont fait sortir par Fenerbahçe 3-0. Monaco a vu le FC Barcelone revenir 2 partout. Match entre les deux équipes demain à 19h. Et en Betclic Elite, résultat de la 28e journée de championnat. Et Paris s'est consolé en gagnant 78-71 contre Limoges. Et Nanterre a perdu 96-81 contre Nancy. Au classement, le Paris Basket est 3e et Nanterre 13e. En handball, Nantes a battu...
En tout cas, je te coupe, mais c'est une belle saison pour le Paris Basket quand même.
Oui, hein,
ce quart
de
finale de
play-off,
c'est une saison exceptionnelle. Hein.
Oui, c'est une belle saison pour le Paris Basket. Ça laisse de bons présages pour le futur. En handball, Nantes a battu le Sporting 32-30 en demi de Ligue des Champions et affrontera Berlin dans le carré final le 14 juin à 15h. Berlin qui a battu Aalborg sur le score de 40-36. L'autre confrontation dans le carré final, c'est le FC Barcelone qui affrontera Magdebourg. Et chez les femmes, en Ligue Européenne, donc l'étage en dessous de la Ligue des Champions, Dijon termine 3e après avoir gagné la petite finale contre Blomberg-Lippe 32-27. Et en championnat masculin, le PSG conforte sa première place en gagnant contre Limoges 37-26, avec notamment un très bel hommage
pour Karabatic, qui met fin à sa carrière.
Qui met fin à sa carrière, une légende, hein, du handball français. Ivry, par contre, perd contre Nantes 33-29 et Créteil perd à Chartres 26-25. Avec cette défaite, Créteil devient premier relégable avec 14 points, suivi par Ivry, toujours dernier, avec 9 points. Ça sent mauvais quand même pour les clubs
français.
Pour les femmes, par contre, pas de championnat de handball ce week-end. Et on termine ce journal des sports avec le volley et un nouveau titre pour les filles de Levallois-Paris. Elles ont gagné 3-2 contre Nantes samedi, ce qui fait 2-0 en cumulé. C'est le deuxième de suite en plus pour les filles de Levallois-Paris. Et chez les hommes, on joue encore les demi-finales des play-offs. Montpellier fait 1-1 contre Tours. La troisième manche se joue actuellement. Donc là, ça fait 0-0 pour l'instant. Mais le premier set est dominé par Montpellier 20-18. Et Poitiers, par contre, en revanche, s'est qualifié pour la finale 2-0 contre Chaumont.
Voilà. Très bien pour ce journal des sports, une nouvelle fois très très complet. Je me suis laissé entendre dire que vous étiez un spécialiste de la nuit. Concernant le travail aussi.
Ça peut être mal interprété.
Oui, ça peut être mal interprété. C'est pour ça que j'ai dit concernant le travail.
Non, c'est surtout parce que moi j'interviens dans surtout dans les entreprises où les collaborateurs ont un rythme de vie décalé. Ouais. Je parle, ça peut être les hôpitaux, ça peut être les casinos de jeux, ça peut être dans la police, etc. Et c'est vrai que quand on travaille de nuit, le rythme circadien, donc les sécrétions hormonales, etc., tout ça est perturbé. Et la prise alimentaire aussi est perturbée vu qu'on mange la nuit et on dort le jour. Donc ça change beaucoup de choses. Et c'est pas du tout la même manière de concevoir son hygiène de vie par rapport à la prise de poids, la perte de poids et la santé. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place parce que c'est faisable. On peut optimiser des choses et il y a de la demande. Et ces personnes-là, je parle surtout du personnel médical, hein, ils se donnent un petit peu pour tout le monde. Et c'est dommage qu'eux-mêmes dégradent un petit peu leur santé. Donc, il y a quand même de la prévention à faire aussi, notamment par rapport à tout ça.
Voilà, donc il fallait en parler même dans cette émission de sport. S'il y a des sportifs qui veulent vous joindre, je sais bien, vous êtes un homme du Sud, vous venez souvent sur Paris. La preuve, vous êtes venu dans nos studios ce soir. Que font-ils? Ils vous contactent où et comment?
Bon, c'est très simple, alors que ce soit des sportifs ou même des personnes qui veulent un accompagnement nutritionnel sans régime, sans aller à la salle de sport et qui veulent la notion de plaisir au centre de l'équation.
Sans privation, qu'avec du plaisir.
Non, mais parce qu'en fait, moi, je suis spécialisé pour les professionnels Oui. Ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des avocats, etc. Ou des professionnels qui ont beaucoup de responsabilités au quotidien, qui sont soumis à du stress et qui ont peu de temps pour s'occuper d'eux-mêmes. Ouais. Ben, ces personnes-là, je leur permets d'allier un esprit sain dans un corps sain, finalement, sans pour autant faire de régime, faire de stratégie miracle, etc. Donc tout ça, toutes ces personnes-là peuvent me contacter déjà sur mes réseaux sociaux. Alors sur Instagram, moi c'est Clément Santé et Nutrition. Et sur LinkedIn, c'est Alonso Clément, le coach en costume. Et je suis spécialisé aussi pour les entreprises, pour les personnes qui veulent optimiser la santé et développer la sphère bien-être dans leur entreprise pour leurs salariés.
Oui. Et vous avez fait du hand à haut niveau, c'était où dans quel club? On c'est en ça. A beaucoup bon, parlé du hand.
À haut niveau, c'est pas à niveau professionnel, mais c'était à haut niveau par rapport à... On était en ligue. Oui. Donc c'était pas, voilà, c'est quand même pas mal. C'était dans le club de Cadolive, hein, qui connaissent. Voilà. Ouais. Donc c'était un petit village.
Très bien. Voilà. Merci en tout cas. Là. Alain, la parole vous est donnée pour finir cette émission. Est-ce que vos disciplines, ça peut s'adapter aussi au sport handicapé?
Oui. Là, nous, on fait une chose, c'est qu'on a un partenariat avec Première de Cordée.
Ah, d'accord. Je crois la présidente doit être Nathalie Péchala ou voilà.
Oui. Ambassadrice.
Et puis avec la DASCO Hôpital, on fait déjà des interventions dans 3 hôpitaux. Donc on n'a pas de prétention de faire des groupes, mais c'est surtout on travaille surtout sur la sensation.
Oui.
Ça veut dire que un enfant qui est en fauteuil, quand on lui parle glisse. Pour lui, ça ne veut rien dire. Là, quand il a la possibilité de se mettre les pieds sur un skate et d'avoir simplement la possibilité de faire des placés, on voit tout de suite qu'il a la banane parce que il est plus quand les autres parlent, il peut s'identifier à la chose. Et puis, on l'a fait aussi avec des non-voyants.
Ah oui.
Ça veut dire il suffit d'avoir un animateur, un moniteur qui tienne le non-voyant en équilibre sur le skate. Et à partir de là, il ne fait pas des grandes figures, mais simplement de comprendre la sensation et tout ça, ça nous permet. Et puis là, on est en train de travailler sur un espèce de portique qui permettra à des gens qui sont en fauteuil de se retrouver debout et de pouvoir remettre ou des rollers ou des skates ou de la trottinette.
D'accord.
En étant tenu par toute la structure. Donc voilà, c'est quelque chose on travaille car c'est très intéressant.
Merci en tout cas pour votre venue. Ça vous a plu votre première radio, vous voyez?
Oui, ça va.
Ah, ça va, c'est très bien, c'était un plaisir. Hein. Merci en tout cas, donc Clément, bon retour dans cette belle Provence.
Ah, je suis content, j'ai apporté peut-être le soleil. Ah, quand oui, fois que je viens, il fait beau ici.
Ah bah c'est bien. Enfin,
c'est peut-être un mythe, mais chaque fois que je viens, il fait beau.
Voilà. Vanessa, rendez-vous la semaine prochaine.
Rendez-vous la semaine prochaine. Hein, voilà. Merci à nous inviter.
On aura la semaine prochaine, on parlera de taekwondo, tiens. Voilà, ça, puis on aura la rubrique MMA, puis on rendra hommage avec une grande joueuse du basket qu'on est allé interviewer hier dans la région des Yvelines. Merci Alexandre.
Merci,
on se retrouve au bout du foot avec notre ami LG et toute l'équipe. Hein. Voilà,
après.
Et merci naturellement à Léo d'avoir été une nouvelle fois brillamment aux manettes ce soir. Belle fin de soirée. On vous laisse en musique et puis rendez-vous la semaine prochaine. Salut, bye bye.
Bonne soirée.
froid, votre silence, vos yeux pleins d'ennui. Nul espoir n'est permis. Pourtant, je veux jouer ma chance, même si, je devais y brûler ma vie. Je suis fou. Je reprends confiance, je me dis, tout pourrait changer aujourd'hui. Love me, please love me, je suis fou. Cheers.